Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune. Nous commençons avec un verset titre. Je crois qu'elle est allumée, oui, ça doit être le cas. C'est bon ? Ouais. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce verset, c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu, le tout dernier, Matthieu 28, 20. Et il s'adresse aux disciples que Jésus a littéralement, on peut le dire, il les a convoqués en Galilée. Convoqués. Nous sommes dans cette période de 40 jours après la résurrection du Christ, avant son ascension, qui, elle, aura lieu près de Jérusalem. Nous sommes dans cette période où Jésus apparaît à plusieurs reprises à ses disciples, mais jusqu'ici essentiellement à Jérusalem ou tout proche, et on se souvient d'Emmaüs. Cependant, là, c'est différent. Jésus déplace ses disciples là où tout a commencé, près du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi, bien sûr, vous le savez, le lac de Galilée. C'est un rendez-vous que l'évangile de Marc évoque aussi, mais beaucoup plus brièvement. Mais ce verset titre, il n'est pas isolé, il prend sa place dans un ensemble plus large que nous allons lire à présent, et c'est Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors il faut s'imaginer un peu l'état d'esprit des disciples. Les 11, puisque c'est des 11 qu'il s'agit, Judas n'est plus là. Ils sont venus, ils ont parcouru autour de 120 kilomètres quand même. Celui qui a fixé ce rendez-vous leur a fait vivre en quelque sorte l'impensable. Ils sont passés en quelques jours de l'abattement total dû à la crucifixion, du sentiment de défaite définitif, au constat de sa résurrection. Personne n'est passé par cette expérience avant eux, et ça les laisse quand même un peu groggy. On peut facilement le comprendre. Ce qu'ils ont vécu, c'est inimaginable. Et donc, ils l'ont revu, d'abord à Jérusalem, et là, ils vont le retrouver encore en Galilée, là où tout a commencé. Dans leur tête, qu'est-ce que ça peut avoir comme signification, ce retour en Galilée ? À leur place, j'imagine que j'aurais volontiers pensé à un recommencement de la mission. Ça va recommencer. Et j'aurais imaginé que Jésus avait forcément un plan, mais cette fois-ci vers un triomphe total. Ça serait un peu comme un nouveau départ. Quel était l'état d'esprit des disciples à ce moment-là ? Mais avant ce rendez-vous fixé, il a fallu revenir au quotidien, simplement pour manger. Pierre a entraîné avec lui 6 de ses disciples pour aller pêcher. Parce qu'il faut bien mettre quelque chose sur le marché et mettre quelque chose dans l'assiette. Et c'est Jean qui raconte cet épisode, Jean 21, versets 1 à 14, où pour la troisième fois depuis la résurrection, je mets à part Emmaüs, les disciples présents rencontrent Jésus. Et Jean, depuis le bateau, vous vous souvenez de ce récit, vient de le reconnaître sur la plage. Il crie « C'est le Seigneur !» Et Jésus est venu leur préparer plusieurs choses. La première, la surprise d'une belle pêche, tout d'abord. La deuxième, un barbecue. Pain et poisson. Et c'est chaud, et c'est prêt. Et enfin, une discussion avec Pierre, après le repas dont celui-ci se rappellera toute sa vie. Jean 21, 15 à 23, si vous voulez relire cet épisode. Cette discussion, elle va répondre à une partie des questions que se pose Pierre. Que va-t-il se passer maintenant ? Alors a lieu la rencontre. La rencontre prévue a lieu sur une colline. Ça y est, tous les disciples sont arrivés. C'est sans doute un endroit connu à la fois des onze et de Jésus, un repère commun, un lieu qui leur parlait. Le texte dit « sur une colline en Galilée », on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas, ensemble, auparavant, on n'en sait rien. Mais ils sont au rendez-vous, tout le monde est là. Pas seulement les six qui ont aidé Pierre à pêcher tout à l'heure, mais avec Pierre, cette fois-ci, ils sont onze. Et le premier réflexe de ces retrouvailles, sur le terrain de leur début avec Jésus, la Galilée, c'est un réflexe de révérence de la part des disciples. Le verbe grec qui est utilisé ici en donne une idée. Il signifie que les disciples ont un élan vers Jésus qui manifeste à la fois leur amour et leur respect. Il signifie que, effectivement, ils le reconnaissent comme Seigneur. Certaines traductions choisissent « ils l'adorèrent », ça c'est le cas de la traduction du Sommeur ici. D'autres choisissent, comme à la seconde 1910, « ils se prosternèrent ». En tout état de cause, il y a dans leur attitude à la fois de l'affection et de la soumission. Mais en même temps, il y a, et ce n'est pas incompatible, beaucoup d'interrogations. La traduction du Sommeur préfère à traduire « ils ne surent que penser ». La traduction seconde préfère « ils eurent des doutes ». Alors non, ils ne doutent pas de la résurrection, ce n'est pas la résurrection qui doute. Ils n'en doutent plus. Jésus les a rencontrés déjà trois fois. Là encore, le mot grec utilisé permet de mieux cerner ce dont il s'agit. Quand on parle de doute, douter, c'est hésiter dans ce mot grec utilisé, ou alors se tenir à deux endroits. Et nous, on dirait aujourd'hui, ils sont entre deux chaises. Ça serait ça notre expression. Ils sont assis entre deux chaises. Pas très confortable. La plupart des traductions choisissent de formuler ainsi « quelques-uns doutèrent ». Et pas comme la traduction du Sommeur l'a choisi ici, « ils ne surent que penser ». Sous-entendu, on pourrait comprendre que tous ne surent que penser. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que Pierre n'est pas le seul qui se questionne sur la suite des événements, comme le relate la discussion entre lui et Jésus après la pêche et le barbecue. C'est l'interrogation au moins de plusieurs des onze qui ont fait le voyage. C'est quoi la suite ? Ils sont venus au rendez-vous, mais sans doute remplis de questions, de beaucoup plus de questions que de certitudes. Alors le récit de Matthieu bascule dans une nouvelle perspective. Il bascule vers des réponses que les disciples attendent et qu'ils ont besoin d'entendre. Ils sont entre deux chaises, alors Jésus va leur donner plusieurs choses pour leur assurer une position plus confortable. Un nouveau cadre, une direction et une garantie. Trois choses. Le cadre est nouveau. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est aujourd'hui sur cette colline qu'il faut que les disciples réalisent l'accomplissement de la promesse qui rétablit Jésus dans sa gloire initiale, après son abaissement dans la condition humaine. Alors nous, 2000 ans après, nous avons eu le temps de mâcher tout ça, de le comprendre, de l'assimiler. Mais mettons-nous à leur place. Ce « j'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre », ce n'est pas si facile que ça à assimiler, instantanément. Et ainsi s'accomplit, et ça ils l'ont dans leur culture, des textes qu'ils connaissent. Et notamment la vision du prophète Daniel. Daniel 7, versets 13 et 14. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quand en son royaume, il ne sera jamais détruit. C'est aujourd'hui pour les disciples qu'il est important qu'ils comprennent la véritable nature du Christ. Souvenons-nous aussi de ce que l'évangile de Jean rapporte de la prière de Jésus lui-même avant son arrestation. C'est dans Jean 17, versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi de cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Jésus a besoin de faire saisir aux disciples qu'une étape est franchie, que dès à présent, ils peuvent être assurés que Jésus a retrouvé sa position divine. Oui, le cadre a changé. J'ai reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Il y a aussi une nouvelle direction. C'est parce qu'ils savent désormais quelle est la véritable grandeur de celui qui les envoie que Jésus peut donner aux disciples la direction à prendre. Un nouveau cadre, une nouvelle direction. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples entendent de la bouche même de Jésus ce qu'on appelle communément la grande mission ou le grand mandat. Des méditations et des prédications entières portent sur ces passages, et c'est sans doute les plus commentés de l'évangile de Matthieu. Et c'est justifié. Pourquoi ? Parce que, en peu de mots, Jésus vient tout simplement de définir le rôle de l'Église à venir. Il ne s'agit rien moins que de ça. Comme beaucoup de commentaires le soulignent, c'est là le point culminant de l'Évangile. Et encore une fois, il faudrait s'arrêter beaucoup plus sur ces versets, beaucoup plus longuement. Mais nous le faisons aujourd'hui à propos des tout derniers mots de cet Évangile de Matthieu. Rappelons-nous, Jésus a donné un nouveau cadre, tout pouvoir, il a décrit la direction, allez, et dans les derniers mots maintenant, il parachève ce qu'il dit aux disciples avec une garantie. Et la garantie, c'est « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une incroyable promesse. C'est une garantie parfaite que laisse Jésus à ses disciples. Elle ouvre pour nous une perspective vertigineuse. Jésus n'annonce pas moins que sa présence permanente. Et c'est sur cette garantie en forme de promesse que je m'arrête en trois points ce matin. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? D'abord, à qui s'adresse cette promesse ? Qui est ce « vous » ? Ma première lecture spontané consisterait à restreindre cette promesse aux 11 disciples que Jésus a rassemblés. Ils ont un destin assez extraordinaire, quand même. Ils ont vécu 3 années avec le Christ. Ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressuscité. Qui est mieux placé qu'eux pour prétendre faire partie de ce « vous » dans la phrase ? Moi, je suis avec vous tous les jours. C'est des hommes à part. Ils ont été choisis par Jésus directement. La promesse, elle est pour eux, forcément. Mais alors je réalise qu'il y a quelques instants encore, certains de ses disciples étaient assis entre 2 chaises. Ils hésitaient sur ce qu'il fallait penser, qu'ils se demandaient bien quelle allait être la suite, et que finalement ce ne sont pas des héros. Qu'ont-ils en commun, si ce n'est d'avoir répondu à l'appel que Jésus leur avait lancé, de l'avoir suivi en confiance, mais on le sait tous, pas sans interrogation quand même. Non, ce n'est pas des hommes à part. Ces hommes auxquels Jésus confie une grande mission, ils ont eu leur lâcheté. On se souvient de Pierre qui renie trois fois, on se souvient de ceux qui se demandent qui est le plus grand parmi nous. Ce n'est pas très reluisant. Et ce sont ces hommes-là que Jésus mandate au bord d'un lac de Galilée pour aller fonder rien de moins que l'Église à l'échelle du monde. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Et à ce sujet, fort opportunément, l'apôtre Paul rappelle une caractéristique très particulière de la façon dont Dieu agit. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Sur ce qui est considéré comme insignifiant, les disciples sont insignifiants pour réduire à néant ce que le monde estime important. Alors ce « vous » auquel Jésus s'adresse finalement, ce sont des gens très ordinaires, on dirait aujourd'hui des citoyens lambda, des sans-gradins. Ce n'est pas comme ces cadres supérieurs, vous savez, à notre époque, qui s'entichent d'un gourou et qui fondent une secte, avec beaucoup de moyens financiers derrière. Ce n'est pas ça les disciples, ce n'est vraiment pas ça. Alors aucun de nous, ce matin, ne doit se dire « je n'ai pas les qualités nécessaires pour faire partie de cette Église-là ». C'est trop haut pour moi, je n'ai pas les épaules. Jésus est allé chercher des inconnus et des anonymes dans la société. Et Jésus le leur rappelle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean 15, verset 16, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est Jésus qui rappelle aux disciples qu'ils n'ont pas eu à se poser la question de leur dignité préalable pour faire partie des disciples. Et un commentateur l'a écrit ainsi, Jésus n'a jamais dit « Je serai avec vous une fois que vous aurez acquis assez de maturité et appris à marcher en rythme avec moi. » Non, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. » C'est important pour nous ce matin de se redire qu'il n'y a pas de diplôme de disciple, mais il y a un chemin de disciple, un processus. Le disciple écoute, comprend et met en pratique ce qu'il apprend. Tous ceux qui désirent être disciples de Jésus-Christ font donc bien partie de ce « vous » entre guillemets. Deuxièmement, l'auteur de la promesse. Peut-être que les disciples ont entendu la première phrase de notre passage, « J'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre ». Mais aujourd'hui, sur cette colline de Galilée, ce n'est pas flagrant. Ils peuvent se dire, on les comprend, « Je veux bien te croire, Jésus, mais ce fameux royaume dont tu nous as parlé si souvent, sur les chemins de Galilée et de Judée, il n'est pas vraiment visible ». Et sans doute, au fond d'eux-mêmes, certains de ses disciples ont-ils lié la résurrection de Jésus à l'instauration d'un nouvel ordre. Vous savez, on parle d'ordre, nouvel ordre mondial, d'un régime politique enfin parfait. À quoi ça sert sinon que Jésus ait reçu tout pouvoir, comme il nous le dit, s'il ne l'utilise pas là, tout de suite ? Moi, je pense que j'aurais eu cette question pour ma part. Ça aurait pu être ma question. J'aurais attendu la grande démonstration, l'espèce de feu d'artifice. Et peut-être que, pris dans leur pensée, alors, ils n'ont pas remarqué que Jésus a terminé en disant « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit « Je serai », il dit « Je suis ». Et c'est frappant à deux égards. Premièrement, qui est Jésus pour promettre ? On se souvient de ce que dit Jésus aux Juifs pharisiens qui lui demandent de qui il est vraiment. Jean 8, 58. « Je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. » Et les pharisiens n'apprécient pas Seul Dieu peut dire « je suis ». Ce « je suis », vous le savez, c'est le nom que Dieu a indiqué à Moïse pour le présenter aux Israélites. Il ne s'agit pas d'utiliser ce nom pour lui-même. Et c'est là que Jésus passe tout près d'une lapidation, parce que c'est un vrai blasphème. Jésus vient de dire qu'il est de nature divine. Et c'est insupportable pour les interlocuteurs. Jésus vient d'affirmer sa divinité. Au passage, si vous avez des discussions avec des gens qui disent « mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu », rappelez-leur ce verset. Rappelez-leur Jean 8, 58. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on trouve plein de choses intéressantes et d'autres beaucoup moins. Mais la discussion sapiternelle selon laquelle Jésus n'aurait jamais dit qu'il était Dieu. Regardons de près les Écritures. Donc, celui qui peut dire « avant qu'Abraham fût, moi je suis », et aussi, à plus forte raison après sa résurrection corporelle, celui qui peut promettre « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, « je suis », et maintenant, « je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce verbe au présent que Jésus emploie désigne sa capacité à assurer désormais une présence constante, à partir de la colline, à partir d'aujourd'hui, auprès de ses disciples. C'est pas une présence mémorielle, vous savez, une espèce de beau souvenir d'une expérience très chouette que les disciples auraient eu avec lui, une espèce de souvenir qu'on met un peu sur l'étagère. Hein. C'est pas un futur improbable, c'est pas une éventualité heureuse. C'est Jésus, dans sa nature divine, qui assure sa présence à partir de maintenant. Et alors peut-être que la phrase qu'ils ont distraitement entendue tout à l'heure, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre », ça revêt une autre signification maintenant. Qui est Jésus pour promettre ? Celui qui a consenti à s'abaisser pour vivre notre humanité, pour être Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, et qui le reste ? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me souviens que jeune enfant, moi j'étais connu dans ma famille pour dire tout le temps « je m'ennuie » à mes parents. « Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. » Et à peine me donnait-on une occupation, j'envoyais vite la faim et je redemandais quelque chose à faire. Ma mère me l'a souvent rappelé. J'étais toujours dans l'après, incapable de m'inscrire dans l'instant et de savourer le moment ou l'activité. C'était quoi la suite ? Qu'est-ce qu'il y avait après ? Sans arrêt. Eh bien, je dis qu'on se ressemble avec les disciples. Je parierais volontiers que lorsque Jésus dit « tous les jours jusqu'à la fin du monde », ils entendent d'abord « jusqu'à la fin du monde ». C'est un sujet qui les préoccupe. Matthieu rapporte qu'ils ont déjà posé la question à Jésus. « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? » Et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ? Matthieu 24, verset 3. C'est un vrai thème pour la messianité juive de l'époque. Mais finalement, c'est aussi un vrai thème pour nous à notre époque. C'est quoi après ? C'est quoi la suite ? Et le cinéma, la littérature de science-fiction se nourrissent de ça, constamment. Vous pourriez chacun le dire ici, sans arrêt nous disons et nous vivons hier, demain, avant, après, plus tard. Jésus dit, je suis là. Le monde durera ce qu'il durera. Jésus est désormais dans un présent permanent avec nous. Et ça, c'est important de le réaliser. C'est important. Chaque instant, on pourrait le dire autrement, chaque instant qui passe, c'est un maintenant de Dieu avec nous. Chaque instant qui passe est un maintenant de Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours. On ne prend pas simplement rendez-vous le dimanche, je suis avec vous tous les jours. Pas seulement dans les moments fantastiques, dans ces parcelles de bien-être où la vie, on pourrait dire, la vie est belle, je suis avec vous tous les jours. Pas seulement quand ça dérape et que je cherche à quoi me raccrocher, je suis avec vous tous les jours. Et si nous désirons vivre en tant que disciples, nous vivons dans le maintenant de Dieu. Dieu est pour nous maintenant. Chaque instant, même s'il passe pour nous si vite, chaque instant de notre vie est pour nous un maintenant et un maintenant pour Dieu. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça traduit la fidélité dans la durée, parce que nous sommes des êtres de durée. Nous avons un avant, un maintenant, un après. Nous sommes inscrits dans une histoire. Mais le « je suis avec vous », cela veut dire que Jésus, Dieu notre Père, nous assure à travers l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, une présence permanente. Enfin, que signifie être avec ? Comme nous l'avons vu, premièrement, la promesse est bien pour ceux qui désirent être des disciples du Christ. C'est clair. Deuxièmement, c'est bien Dieu, l'auteur de cette promesse, à travers son Fils, Jésus-Christ. Mais que veut dire être avec nous ? Et je termine ce matin avec cela. Est-ce que l'affirmation « je suis avec vous » c'est un simple encouragement du type de ceux que sont capables de formuler des supporters de foot ou de rugby ? On est avec vous ! Nous vivons tous de ces situations, hein, où des proches sont concernés par des épreuves difficiles, ou au contraire par des défis plus positifs à relever. On ne peut pas faire grand-chose pour eux, on ne peut pas faire grand-chose à leur place, mais on a envie d'exprimer notre solidarité. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Mais Jésus avait déjà eu l'occasion de montrer aux disciples qu'être avec nous, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Voilà ce qu'est être avec. Voilà jusqu'où va cette façon d'être avec. Le Père et le Fils établissent une demeure permanente en chacun de ceux qui veulent croire et vivre selon la parole du Christ. Cette notion de proximité, elle est vraiment bien mise en évidence par Jean dans son évangile. Et il reprend les paroles de Jésus dans un chapitre suivant, le chapitre 15, versets 4 et 5. Et j'avais déjà cité ces paroles dans une méditation précédente. Et regardez, à chaque fois qu'on met un verbe à côté, ça parle encore plus nettement. Demeurez, je pourrais dire habiter, chez moi. Et moi, je demeurerai, j'habiterai chez vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous n'habitez pas chez moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui habite chez moi, et chez qui je demeure, chez qui j'habite, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et être avec, on le voit ici, c'est littéralement habiter l'un chez l'autre. Pour Jésus, ce n'est pas juste assurer le croyant de sa solidarité lointaine ou formuler un timide soutien en disant « je suis là ». S'y assurer de sa réelle présence, celui qui va vivre la grande aventure de son Église. À l'égard de toutes les nations, témoigner en parole et en acte de l'œuvre du Christ, accueillir dans l'Église en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faire grandir dans l'Église, dans l'obéissance à la parole du Christ. Et dans cette aventure, dit Jésus, je suis avec vous. Et c'est même la condition de l'avancée de cette grande mission. L'apôtre Paul lui-même a eu besoin d'être rassuré au moment où c'était dur de se faire entendre à Corinthe. Et après ces difficultés rencontrées, voilà ce qu'il vit. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas, je suis avec toi. » Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, il y avait de l'opposition, hein. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant un an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. Paul se savait accompagné, habité intérieurement par l'Esprit de Dieu et c'est bien spirituellement que Jésus est avec Paul et avec nous par son esprit. Alors, pour les disciples, au moment où Jésus va partir et retrouver sa position divine pleine et entière, à la droite du Père, en les quittant physiquement à l'ascension, c'est important d'avoir cette garantie qu'ils ne sont pas de nouveau tout seuls. Jésus leur avait promis un défenseur, un consolateur. Ils vont mesurer ce que ça veut dire quelques jours plus tard à la Pentecôte. Là, sur la colline, ils ne le mesurent pas du tout, pas encore, mais ils vont le vivre pleinement quelques jours plus tard. Et c'est l'Esprit de Dieu présent en eux qui les rendra capables de démarrer à Jérusalem ce qui deviendra l'Église de Christ. En conclusion, quand Dieu nous promet à travers Jésus d'être avec nous, c'est pour nous transformer par son Esprit vivant en nous et nous rendre de plus en plus semblables à Christ, de sorte que nous puissions à notre tour refléter la gloire de Dieu et dire, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors oui, ce « Je suis avec vous tous les jours », c'est une promesse, une garantie pour tous ceux qui veulent voir grandir l'Esprit de Christ en eux et pouvoir dire ces mots avec Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et de tout le reste, Dieu nous rendra capables. Amen.